Vabrant, come in.
Mondes imaginaires ouvre ses portes sur un immense dédale. Laissez-nous vous guider parmi les couloirs de feuilles ou de murs qui surgissent au gré des tournants et peut-être trouverez-vous le centre et le Minotaure. Et pour cette actu, on va commencer avec une histoire de labyrinthe. Comment réagirez-vous si un personnage un peu louche, se prétendant détective privé, vous approchait pour vous poser des questions sur votre famille? En particulier, sur votre famille dans les années 20, voire 30, alors que vous connaissez que votre grande tante. Et surtout, quel est le lien avec un labyrinthe? Parce que j'ai l'impression que Anne est en train de se poser la grande question.
Non, je suis juste en train de me dire, est-ce que ma grande-tante était née dans les années 20? Des fois, j'ai des questions existentielles comme ça. Je suis pas sûre.
Merci pour cette précision. C'est avec ce personnage de Molly Travers que Lisa Goldenstein va nous amener dans un labyrinthe un peu étrange. Qui est, en fait, mentionné dans le titre, parce que le titre c'est l'ordre du labyrinthe. Et même si on a ce labyrinthe un peu en fond, il surgit vraiment à la fin. Je vous dirai pas pourquoi, mais il est intéressant de regarder comment est-ce que ce labyrinthe est mis en place, vu que Molly Travers ne connaît que sa grande tante, qui a ce détective qui va venir lui poser une myriade de questions, et que avec elle, on va retourner dans le passé dans une sorte de spectacle de magie complètement farfelu. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il y a des trucs, si tout est illusion, vu que sa famille, à l'époque, s'appelait All a Lie. Tout est mensonge. On va donc la suivre au gré de journaux retrouvés, de documents, de poursuites, pour se retrouver dans un labyrinthe avec peut-être un Minotaure. Peut-être son Minotaure, peut-être le vôtre. Je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est un livre qui est très facile d'accès, très léger. Très léger, un petit peu trop léger pour moi. Mais il est simple et efficace.
Pourquoi il est un peu trop léger pour toi?
Parce qu'il est un petit peu en mode... c'est une histoire sympa, mais je trouve que ça manque un peu de profondeur. Et... ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est les passages dans le passé avec cette famille qui est complètement dans un monde déjanté, qui crée en fait son monde déjanté parmi avec des spectacles, etc. Où tout est magie, tout est merveilleux, tout est couleur. Et après, on revient dans notre monde triste et terne où les personnages secondaires sont un petit peu tristes et ternes. Et tout ce qu'on veut, c'est retourner dans ce monde complètement farfelu, que nous décrit en fait les journaux que retrouve Molly au fur et à mesure de son enquête.
Et donc tu nous as prévu une BO qui est en lien avec ce que tu aimes dans ce bouquin ?
Exact. Donc c'est une BO qui est sur les années 20 que j'ai trouvé assez sympa et qui me faisait un petit peu penser à ces spectacles haut en couleur.
Thank you.
Je suis un livre.
Non, je suis une BD.
Non, 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 je suis un film.
Alors, je vais commencer par m'excuser pour la magnifique voix que vous pouvez entendre.
Trop sexy.
Ouais, non. Alors, non, moi je le vis et non. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une série de romans que j'ai adoré et d'une série de films que j'ai détesté. On a hésité à mettre tout ça en daube, mais j'aurais trouvé dommage de priver une bonne pub au bouquin. Donc, il s'agit de la trilogie de L'Épreuve, que vous devez connaître sûrement sous le nom du Labyrinthe, Terre brûlée et Remède mortel. Une trilogie écrite par James Dashner et qui est parue en anglais autour des années 2009 à 2011.
Parce qu'en film, il est déjà sorti en trilogie ?
Alors, le troisième film est prévu pour cette année, en fait.
Ah bon, alors ça va, j'ai pas raté des bouts de trucs mauvais.
Okay. T'as pas raté des bouts de trucs mauvais, en fait. Le premier film était pas trop mal, le deuxième est une grosse bouse et le troisième, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit « Ah, sans moi, les gars !» Donc voilà. C'est du young adult, de la SF young adult, plutôt du même plus précisément du post-apocalyptique. Le pitch est le suivant. Thomas, 16 ans, se réveille dans une boîte qui le ramène à la surface. À cette surface, il retrouve un groupe de jeunes garçons de plus ou moins son âge qui se trouvent dans une espèce de grande étendue dans laquelle ils ont créé leur petite société. Et entouré par des murs immenses qui cachent un labyrinthe sans fin. Le labyrinthe est ouvert et chaque jour, un groupe de coureurs va le parcourir pour essayer de trouver une sortie, etc. Au fil du temps, ils ont découvert qu'en fait, le labyrinthe change de position chaque nuit et ils essayent de trouver un moyen pour sortir de là. Il y a un nouveau garçon qui arrive par mois et cette fois-ci, c'est Thomas. On lui explique très vite le fonctionnement. Puis alors lui, il est tout de suite attiré par ce labyrinthe. Il a envie d'aller courir, il a envie d'aller découvrir un petit peu ce qu'il y a au-delà. La particularité, c'est qu'il faut être rentré chaque soir avant la fermeture du labyrinthe parce que si on reste dans le labyrinthe, bah, y a des trucs un petit peu bizarres qui s'y passent, des créatures qui sont un peu relâchées pendant la nuit. Tout ça, c'est très plein de mystères. Bon, pour l'instant... Au niveau de la bizarrerie fait partie de la normalité de la vie de ces jeunes garçons. Tout change le jour où y a une fille qui arrive, peu de temps après Thomas. Une fille, Teresa, qui a un mot à la main, qui annonce un changement. Thomas croit la reconnaître. Ah oui, parce que c'est un petit peu la particularité de tous ces garçons, ils n'ont pas de souvenirs. Ils connaissent leur nom. Mais ils n'ont pas de souvenirs de leur famille, de leur vie avant leur arrivée dans ce labyrinthe. Thomas, par contre, il a l'impression de reconnaître cette fille qui arrive. Et très vite, il se rend compte qu'il y a une connexion un petit peu étrange entre eux. Ils sont capables de communiquer par télépathie. C'est difficile de vous en dire plus sans vous spoiler parce qu'en fait, ce bouquin, cette histoire s'inscrit dans quelque chose de vraiment énorme. La partie dans le labyrinthe, c'est vraiment le premier tome. Après, il y a une foule d'événements qui se passent et on arrive sur une partie sur des questions de survie, comment est-ce qu'on fait pour survivre face à la maladie, est-ce qu'on peut sacrifier une partie de la population pour sauver le reste, est-ce qu'on peut faire des sacrifices comme ça, est-ce qu'on peut sacrifier une dizaine de personnes pour en sauver 100. Il y a toutes ces questions-là, il y a ces questions, la question du bon choix, de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. C'est hyper intéressant. Moi, je me souviens quand je les ai lus, c'était il y a peu de temps après leur sortie, j'avais vraiment du mal à en décrocher. Alors, on n'est pas au niveau de Hunger Games dont on vous parlait il y a quelques temps en arrière, parce que pour moi, Hunger Games, c'est vraiment... On touche un espèce de summum. Le labyrinthe n'est pas très loin derrière. Maintenant, j'ai eu une grosse déception à cause des films. Le premier, comme je vous le disais, n'était pas trop trop mal. Il se laisse regarder, il correspondait assez à l'histoire. À partir du deuxième, alors là, on part complètement en cacahuète. Ils ont décidé de plus suivre le script. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Les gars, vous décidez de vous inspirer d'une histoire. Le but, c'est quand même un petit peu de suivre le pitch de base, non ? Alors, pourquoi vous partez dans des considérations qui n'ont absolument rien à voir et qui ne sont pas cohérentes deux secondes, ni avec l'histoire de base, ni avec le caractère des personnages, avec rien. Et moi je comprends pas. Donc le troisième film, j'irai pas le voir au cinéma. Jess, t'avais quelque chose à dire ?
Je voulais juste dire que moi je comprends ta frustration, surtout quand il y a quelque chose qui est fait dans des livres et que ça marche.
Ouais.
Et qu'ils ont la prétention, entre guillemets, d'y changer pour ça, quoi. Enfin, pour un truc qui marche pas.
Ouais, puis voilà. C'est mauvais, c'est pas cohérent. À la limite, quand le bouquin a une idée de base bonne et qu'on décide de le modifier un petit peu pour en faire quelque chose de mieux, pour exploiter d'autres idées, etc., moi je veux bien. Je suis assez ouverte en général. Mais là, sérieusement, c'est une boucherie. C'est juste dégueu. Alors après, il y a aussi le côté du casting qui n'est pas incroyable. C'est toujours un petit peu le problème quand on a des séries de films avec des jeunes acteurs qui ont entre 15 et 20 ans, qui ont été choisis pour leur belle gueule plus que pour leur capacité à jouer. Pour moi, c'est vraiment le problème. Donc voilà, le casting aide vraiment pas. Donc sérieusement, ne perdez pas votre temps avec les films, lisez les bouquins, ils valent vraiment le coup, ils tiennent la route. Et alors pour ceux qui, après la trilogie, en voudraient encore, il y a une préquelle qui a été faite, plutôt deux livres de préquelles. Le premier s'appelle L'Ordre de Tuer et le deuxième c'est La Braise. Et ça vous explique un petit peu tout ce monde-là. C'est extrêmement bien fait. Je suis pas toujours fan des préquelles, mais là franchement, ça vaut le coup.
Moitié-moitié, comme la bonne fondue fribourgeoise.
Oui, alors chers auditeurs, bienvenue dans Monde Imaginaire, l'émission qui vous fournit les jingles les plus pourris de la fabrique. Si, si, les copains de Zirconium, là, l'émission de métal qui passe un jeudi sur deux, je viens de dire que nous avons les meilleurs jingles de la fabrique. J'espère que vous releverez le gant, ça sera beaucoup plus drôle. Ceci étant dit, outre cet aparté purement fabriquiste, je pensais vous parler d'une expression, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, Aujourd'hui, je bafouille. L'expression à pierre fendre.
Ouais, il fait froid, à pierre froid, ouais.
Ouais, c'est ouais. Ça. L'expression en entier, c'est il gèle à pierre fendre. Mmh. Et c'est le nom pierre fendre qu'a choisi Brice Tarvel pour son bouquin, mais aussi pour le royaume de l'hiver qui est dans son bouquin.
Ça fait sens.
Ça fait sens. Mais pourquoi un royaume de l'hiver ? Parce qu'en fait, l'histoire se déroule dans une espèce de gigantesque château dont personne n'est jamais sorti et où personne finalement n'est jamais entré. Pourtant, dans ce château, il y a 4 énormes salles qui reprennent les saisons. 4 salles, 4 saisons. Et dans chaque saison, il y a une population qui habite. Et on ne change pas de salle. On reste toujours dans sa propre salle.
Mais est-ce qu'on a conscience des autres salles ?
Oui, on a conscience des autres salles. C'est-à-dire que les gens de Viridis, donc le printemps, ont conscience que juste à côté, il y a la salle qui s'appelle Chaloir, qui est la salle de l'été.
Mais donc ça veut dire que quand tu nais dans la salle de l'hiver, tu te les pèles toute ta vie ?
Oui, c'est ça.
Oh l'angoisse !
Non mais c'est comme si tu, c'est comme quand tu nais à Chaloir, qui est une espèce de gigantesque désert sableux où tu meurs de chaud et il n'y a pas à boire, et bah tu restes à Chaloir toute ta vie.
Ouais, je pense que l'hiver, ça me ferait plus chier quand même.
Mais printemps et automne, c'est sympa au moins. Il y a quand même des trucs
Viridis,
qui sont cool.
Viridis, c'est très chouette. C'est d'ailleurs de là qu'on part dans notre roman. C'est un endroit où il fait bon vivre, bonne température, bonne lumière. C'est un peu le printemps, donc les journées ont la bonne durée. Il y a des petits oiseaux, des feuilles vertes. La vie est plutôt sympathique à Viridis. Pourtant, nos deux personnages principaux, qui s'appellent Dulvan et Garricorn, décident qu'ils en ont marre. Ils ont un peu l'impression de vivre dans une prison. Alors, voilà, ils sont ados, enfin, post-ados. Alors, ils décident qu'il faut partir. Et ils décident de quitter le confort de leur printemps pour se rendre à Pierrefendre, donc en hiver. Je pense que toi, tu ne ferais pas du tout ça, Johanna.
Mais sérieux, bande de boulets, mais je ne sais pas, aller en automne au moins.
Alors, non, ils veulent aller à Pierrefendre, mais il y a une raison quand même à ça. C'est qu'en fait, ils veulent sortir du château. Et la légende dit que le château est créé par les rêves d'une déesse qu'on appelle la sommeilleuse et qui dort à Pierrefendre. Donc leur idée, c'est de traverser tout le château et donc toutes les saisons pour aller jusqu'à Pierrefendre, réveiller la sommeilleuse et donc détruire le château.
Bon, ça va, ils sont pas complètement crétins finalement.
Mais attends, s'ils détruisent le château, ils détruisent toutes les populations qu'il y a dedans ou est-ce que ça libère les populations ?
C'est une question à laquelle le roman répondra peut-être. Donc, en l'occurrence, leur trajet n'est pas facile, vu que, comme je l'ai dit, Chaloir, c'est un désert complètement invivable. Il y a genre quelques petites populations nomades qui habitent là-dedans. Feuilles sèches, c'est une population assez intéressante parce qu'ils sont plutôt inventeurs. Eux, ils ont des armes à feu, ils sont en train d'inventer la montgolfière. Donc, c'est un peu les inventeurs du début du XXe siècle. Par contre, le temps est complètement pourri. Hein. Et tout pourri, bien entendu, parce qu'il pleut tout le temps, les feuilles sont sèches, ça tombe, enfin voilà. Par contre, là, il y a un peu des châteaux, il y a des mares, ça a l'air un peu évolué. Alors que dans le printemps, c'est plutôt des hameaux type paysans du Moyen-Âge, au niveau de l'idée. Et puis à Pierrefendre, ben, comme tout à l'heure, tu le faisais remarquer, Johanna, ben, c'est une espèce de pôle Nord fois 1000. Donc
vache.
Autant te dire que c'est une grosse banquise avec des espèces de gros ours blancs et puis genre un mec qui habite là.
J'ai une question juste d'ordre pratique. Au niveau de la nourriture, ça se passe comment dans les différentes saisons ? Parce que normalement, la nourriture, elle a besoin d'être une petite graine qui va ensuite devenir...
C'est pas développé.
Etc, etc.
Tu sais que tu trouves de la nourriture.
Mais tu sais pas d'où elle vient, non. Comment est-ce qu'elle
a poussé.
Et puis
ils ont chacun un peu leur culture. Genre à Viridis, c'est plutôt des champs. Okay. À Feuilles Sèches, ben, c'est plutôt des bûcherons qui coupent du bois. Enfin, ils ont un peu chacun leur...
Et ils mangent le bois. Non, je plaisante.
Alors sincèrement, je sais plus ce qu'ils mangent.
Ils mangent des citrouilles.
Ils mangent plutôt bien d'ailleurs à Feuilles Sèches quand ils arrivent chez le... Baron, duc, comte, je sais plus qui rencontre, okay. Enfin, le mec qui invente sa montgolfière.
Quoi. Ouais, donc, puis à Pierrefendre, tu bouffes de la glace toute l'année.
Je pense que tu
ou
peux
de l'écorce.
Trouver... Non, mais tu peux faire comme les Esquimaux. Tu fais un trou dans la glace et tu manges du poisson.
Super.
Ah, et tu voilà. Manges pas de la glace, c'est pas des Esquimaux.
Peut-être.
Oh, la
peut-être que la sommeilleuse a rêvé les bâtons de glace. Mais toujours est-il que ça nous est pas dit. Néanmoins, je me suis un peu posé la même question que toi, Johanna, en lisant le bouquin. C'est pourquoi, les gars, mais pourquoi vous quittez Viridis ? Sérieux, il fait sympa chez vous. Vous êtes plutôt bien lotis. Vous êtes plutôt amoureux l'un de l'autre. Vous avez une vie plutôt sympathique. pourquoi.
Ouais, ben c'est ça. Si à la limite, c'était les personnages du domaine de l'été ou de l'automne qui se cassaient pour, parce que ben, finalement, ça a quand même des inconvénients, etc. Mais là, d'après ce que tu nous dis,
non,
autant
vraiment.
Vivre à Véridis, quoi.
C'est
et,
ça.
Et en plus, tu peux même pas aller voir si la pelouse ou le gazon est plus vert ailleurs, parce que
bah non,
ce sera jamais le cas.
Jess, arrête.
Non, mais c'est surtout qu'en fait, théoriquement, t'es pas censé passer d'une salle à l'autre. Tu habites là et tu restes là.
Et donc, il y a une entrée à chaque fois. Il y a une entrée qui est marquée avec une sortie qui est marquée. Il suffit, entre guillemets, de traverser la pièce.
Ouais. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, il y a la création d'une mythologie.
Okay.
C'est pour ça que moi, j'ai pensé ce bouquin aussi comme un labyrinthe. C'est parce qu'il y a la création d'une mythologie qui t'empêche de bouger. Tu peux pas aller plus loin. T'es dans ta salle et tu restes dans ta salle. Genre, à aucun moment, les berbères qui crèvent de chaud vont se dire « Tiens, les gars, si on allait au printemps, quoi ?»
Et les salles sont accolées les unes aux autres ou il y a des couloirs entre eux ?
Alors, oui, il y a certains couloirs. Typiquement, à un moment, et je spoil pas forcément en disant ça, quand ils décident de passer sur Chaloir, au lieu de traverser le désert, ils vont trouver une espèce de passerelle qui passe par en haut, par au-dessus en fait, de la salle et qui redescend de l'autre côté. Genre un peu comme une mezzanine, si tu veux, mais qui fait tout le tour. Et sauf qu'en fait, c'est peut-être pas une très bonne idée de passer par là. C'est pas pour rien que personne l'utilise. Donc voilà. Il y a la possibilité de un peu slalomer entre les différents...
Il n'y a aucune conséquence de passer d'une salle à l'autre.
Non, pas vraiment.
Parce que si c'est interdit, c'est qu'il doit y avoir une...
Alors non, en l'occurrence...
C'est juste la peur
alors
de
peut-être
l'interdit.
Que j'ai raté ça en lisant le bouquin, mais à ma connaissance, non, j'ai vraiment pas cette impression-là.
D'accord.
C'est plutôt une culture et une peur. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire... oui, donc c'est plutôt une culture et une peur qui empêchent de passer. Et donc, eux, ils passent. Et puis, ils ne sont pas les seuls à passer. Parce que, mais c'est ça, c'est que en fait, une fois que eux sont passés, la sœur d'un des deux personnages, donc la sœur de Dulvan, se dit, oh, je vais perdre mon frère s'il fait ça. C'est trop con. Je vais partir à sa poursuite et j'emmène ma meilleure amie Farid avec moi.
Oh bon, la vache, les lumières, les gars.
Et il y a encore mieux. Il y a une troisième salve de gars qui partent. Il y a en fait la sorcière qui dit, mais ils font quoi ces quatre cons? On est très bien à Véridis. C'est quoi leur idée? Donc du coup. Moi, je vais aller les empêcher de faire ça, d'aller réveiller la sommeilleuse. Donc, je pars aussi. Donc, voilà. Et on se retrouve. Et c'est ça qui, en tout cas, au début du roman, c'est hyper intéressant parce que t'as quand même trois groupes de personnages qui vont faire exactement le même chemin, mais pas du tout de la même manière. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut vraiment voir les différents chemins. Tu demandais tout à l'heure comment est-ce qu'on peut traverser les salles.
Ouais.
C'est hyper intéressant de voir que les deux filles, elles vont traverser le désert tout droit. Les mecs, ils vont passer par en haut. Et puis, Murgosh, la sorcière, donc, elle va trouver le moyen de feinter et d'avoir d'autres options, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, à un moment, ils se rejoignent et puis ils finissent le périple plus ou moins ensemble. Enfin, plus ou moins. Donc. Dans ce que je vous raconte, pour l'instant, ça va, ça a l'air assez clair. Néanmoins, moi, j'ai un problème. C'est que tout le long du roman, je me suis dit pourquoi ? Pourquoi ils sont partis ? Pourquoi ce gars a écrit ce roman ? Parce qu'en soi, finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire. Soyons honnêtes, il n'y a pas vraiment de quête non plus. Puis, en fait, les gars, on a l'impression que la plupart du temps, ils perdent de vue le focus de leur quête. Donc, c'est un peu dommage. Et puis... Moi, j'ai été quand même très déçue, parce que le pitch, à la base, est quand même séduisant. Il y a un giga château avec des saisons. Enfin, ça a l'air assez chouette. Sauf qu'en fait, on attend de savoir pourquoi ils ont envie de réveiller la sommeilleuse. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Puis ça aussi, à terme, ça fait un peu plof. Donc, j'avoue que j'ai été assez déçue par ce bouquin, qui était plutôt vendeur à la base. Je trouve que les personnages sont traités à moitié, que les thématiques sont traitées à moitié aussi. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, les salles et les saisons. Typiquement, tu me posais la question de la nourriture. On n'en sait rien. On sait qu'ils mangent, mais on ne sait pas comment ils ont réfléchi les choses. La magie, parce que c'est quand même une sorcière, un des personnages secondaires, est plus ou moins pas abordée. L'amitié entre Urgence et Farid, bref, c'est vite fait traité, quoi. L'amour, par exemple, parce qu'il se faut savoir qu'il y a un personnage dont je ne vous ai pas parlé, mais il y a genre le forgeron du village qui dit oh, « Je suis trop amoureux de la meuf, je peux pas la laisser partir !» Alors du coup, il part aussi. Mais la tête de Johanna, je pense que vous devriez voir ça, c'est hyper
donc
drôle.
Ça fait 4 salves, en fait. 4 groupes.
Non, parce que lui, il finit par rejoindre les filles. Donc en fait, ils sont 3 dans le deuxième groupe, si tu veux.
Non mais comment bousiller un bon pitch ? Sérieux, le gars, il aurait pris ses deux personnages de base, il les aurait mis dans le pays d'automne, à la limite, au départ. Et là, t'as une quête qui tient la route un peu plus.
Oui, mais il te manque 2 saisons, puis c'est dommage, parce que honnêtement, les salles...
Ah, elles sont
les
dans
salles
l'ordre.
Sont cool. Ouais, elles sont dans l'ordre.
Ah, ouais.
Et puis, ce qui est hyper dommage, c'est qu'il y a un début de traitement d'amour homosexuel dans un livre de fantasy, ce qui est quand même hyper rare, et sauf que non. Sauf qu'en fait, c'est juste vaguement regardé de travers par les gens de différentes saisons. Et puis, c'est pas forcément traité entre eux. C'est mièvre, c'est inintéressant. Je trouve ça juste trop dommage. Parce que donc, Dulvan et Gary Korn sont amoureux. Hein, voilà. Mais en fait, le traitement s'arrête à peu près là. À part que tout d'un coup, Gary Korn tombe malade. Alors, il faut le sauver parce que c'est l'amour de ma vie. Bref, tout est un peu léger, un peu à moitié, un peu mièvre. Et je trouve ça vraiment dommage. Puis alors là où vraiment j'ai envie de pleurer, c'est qu'il a aussi essayé de faire une espèce de traitement thématique du langage en ayant un peu d'effet de style. Je disais que Viridis, c'était plutôt des paysans. Il a essayé de traiter cette manière de parler, d'en faire quelque chose. Sauf que en termes de rythme, ça va pas. Et puis en termes de langage, ça va pas. C'est pas assez maîtrisé. C'est trop rythmique, c'est trop systématique. C'est pas léger, ça alourdit le texte. Je vous parlais de Murgosh qui râlait sur les jeunes qui partent. La phrase, c'est « Vont pas ruiner la belle situation que la mienne, c'est marrant. » Je sais pas, ça sonne faux. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle parle Murgosh, ça sonne faux. C'est con, c'est le seul personnage un peu sympathique. Enfin, sympathique. Intéressant parce qu'il y a un petit peu de matière. Donc globalement, ce bouquin est quand même une grosse déception, ce qui est bien dommage parce que Brice Tarvel, c'est pas son premier opus, il a notamment plusieurs BD à son actif et clairement il a déjà fait mieux. Et puis c'est vrai que la déception est d'autant plus grande que, comme je le disais tout à l'heure, il m'avait un peu vendu du rêve avec son pitch.
D'un livre et d'une histoire assez atypique. Je vais vous parler de La Maison des Feuilles de Mark Danielewski, qui est américain, malgré son nom. Et l'histoire, c'est quoi ? Pour reprendre les débuts à la Perceval dans Kaamelott, c'est l'histoire d'un vieux. En plus, c'est un vieux qui était aveugle. Mais non, c'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire d'un loser qui se retrouve avec l'œuvre du vieux. Non, non, c'est toujours pas ça. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui a reçu le prix Pulitzer et qui a décidé de filmer sa famille qui emménage dans une nouvelle maison pour comprendre et filmer comment est-ce que des gens peuvent investir un nouveau lieu et les relations qui se découvrent et qui se tissent entre les personnages.
Quel est le lien avec le vieux ? Tu m'as déjà perdu.
Et en fait, c'est même pas encore ça. C'est l'histoire donc de cette maison qui, en fait, est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Oh, c'est comme l'étoile de tente chez Harry Potter.
C'est un petit peu ça. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est un peu confus, on va remonter. C'est donc l'histoire d'une maison vraiment bizarre qui crée des pièces, des corridors. Par exemple, vous partez pendant 4 jours, vous revenez, il y a une pièce en plus. Ou un couloir. Un couloir qui devrait donner sur le jardin, mais qui en fait donc devrait faire 2 cm et qui en fait 18, voire 20, voire 40, voire infini. Bref. Donc c'est un couloir ou des pièces qui sont que des pièces ou des couloirs, il n'y a rien d'autre. Je ne vais pas vous passer les 26 pages dans un petit carré au centre de ces pages qui décrit tout ce que ce n'est pas. C'est juste des pièces noires et des couloirs noirs avec un escalier.
Attends, tu viens de parler de carré au milieu de pages.
On y reviendra.
Ok.
J'essaye de mettre un peu de structure dans ce labyrinthe, c'est pas évident. Donc... Notre cher cinéaste va commencer à filmer et commencer à explorer. Et on le voit gentiment perdre la boule, donc c'est assez drôle. Et un film sort qui s'appelle le Navidson Record. Et là, le vieux intervient. Et oui, il arrive le vieux. En fait, ce vieux, ce qu'il va faire, c'est reprendre ce film et en faire une analyse. Synthétiser toute la tonne d'encre qui a coulé à son sujet pour le mettre dans une sorte de livre pseudo-scientifique, philosophique, avec des maths, j'étais obligée de placer les maths à quelque part, de la physique, mais aussi des réflexions sur les labyrinthes, sur les peurs, etc., etc.
Donc là, on parle toujours de la maison. Le film est sur la maison et le livre qui est finalement rédigé par le vieux est sur le film qui parle de la maison.
Exact.
C'est un mec, qui fait,
c'est bon, j'y suis.
C'est un mec qui fait une critique de film.
C'est ça.
En hypra développé.
C'est ça. Sauf que il y a encore des annotations un peu partout, qui est ce fameux loser qui a retrouvé ce vieux mort au-dessus de 4 gros sillons sur le sol, on ne sait pas d'où il vient, et qui a récupéré son œuvre un peu par hasard et qui malheureusement il pensait tout jeter, et bien il a commencé à lire. Et il a commencé à noter. Et au fur et à mesure des annotations, il commence à parler de sa vie, de ce qui lui arrive et...
Donc en fait, tu prends les couches.
Mm-hmm.
Tu as un gars qui a gagné un prix Pulitzer, qui va habiter dans une maison.
Exact.
Ok. Qui décide de faire un film sur la vie dans cette maison.
Exact.
Et le développement de la maison, un peu bizarre de la maison.
Okay. C'est ça.
Ensuite, par-dessus ça, tu as un type qui écrit sur le film qui a été fait, genre un critique de film, comme tu disais.
Exact.
Et qui va pousser la critique au point d'en faire un manuel qui a un visuel un peu bizarre et qui reprend autant des sciences que de la critique de film. Et ensuite, ce gars meurt, donc c'est le vieux que tu parlais, voilà. Ce gars meurt et son manuscrit est trouvé par un junkie.
C'est ça.
Ok, junkie qui prend des notes dans le manuscrit.
Exact.
Et toi, ce que tu as en produit final, c'est le manuscrit du junkie.
C'est le manuscrit annoté par le junkie,
oui,
annoté par le vieux, annoté par les éditeurs, qui souvent s'excusent de la mise en page, et, je vous expliquerai après pourquoi, et du traducteur aussi.
Ah oui, il y a des niveaux de plus.
Mais ouais.
J'aurais peut-être pas dû faire un résumé des niveaux tout de suite, en fait.
C'est le tiroir dans le tiroir dans le tiroir dans le tiroir.
Ouais, je vois.
Ok, vous êtes toujours là ?
Ça grandit sans on cesse, en plus, le tiroir. Ouais.
Alors, moi, j'ai une question. Mm-hmm. Quand le gars a acheté la maison,
ouais,
il l'a acheté au mètre carré ?
Très, très bonne question. Je ne sais pas, c'est pas développé. Mais à la base, c'était censé être une maison... Tout ce qu'il y a de plus normal. Ils partent 4 jours à Seattle, ils reviennent, il y a une pièce en plus qui s'est créée. Et le mec se dit, il y a un problème, il va commencer à faire des trous dans les murs pour mesurer l'intérieur de la maison. Et il se rend compte que la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, il va commencer à péter un plomb. Et sa femme, elle, pour essayer de mettre de la banalité dans ce phénomène un peu étrange, va se dire « Ah, c'est parfait, une pièce en plus, je vais mettre une étagère. » Étagère qui sera donc délimitée par deux des murs. Comme ça, si on prend un livre et que par effet domino, tous les livres tombent, ils ne vont pas tomber au-delà de l'étagère vu que les murs le retiennent. Sauf qu'un peu plus tard, un des professionnels qui va venir pour mesurer la maison va prendre un des livres et les livres vont tomber. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout d'un coup un espace entre l'étagère et le mur. Un espace de 30 cm. Donc la pièce s'est agrandie dans un moment assez court. Voilà.
Voilà.
Donc, ça c'est l'histoire. Donc déjà, ça vous paraît un peu bizarre entre les couches et les sous-couches.
Non, tu peux pas dire ça, c'est l'histoire au singulier. Je suis navrée, tu peux pas faire
ça. C'est l'histoire pareil. De l'histoire de l'histoire.
Non mais c'est les histoires, ouais. Ok, mais pas l'histoire, non, non, faut pas déconner.
Bah, ça rentre dans un grand tout, malgré tout.
Oui, bah vas-y, développe.
Bah non, autrement, je spoil tout.
Ah, bon, d'accord, ok. Donc finalement, ça rentre dans un grand tout, mais elle peut rien vous dire. C'est con quand même.
On va dire que tout est lié. Ce qu'il y a encore de complètement atypique avec ce livre, c'est que non seulement l'histoire parle d'un labyrinthe, est elle-même un labyrinthe, mais même le livre est un labyrinthe.
L'objet en lui-même, donc.
L'objet en lui-même. Imaginez-vous un livre de à peu près 600 pages avec des typographies complètement différentes, de la mise en page complètement différente. Quand je dis différente, c'est que on va dire que vous êtes en train de lire un livre qui paraît normal et tout d'un coup, vous avez vos pages qui sont scindées en, on va commencer par simple, deux, avec une colonne qui reprend une note, qui en fait a commencé 10 pages avant et qui finira 10 pages après, qui fait une référence sur une note qui va commencer 10 pages plus loin pour finir 10 pages avant, mais qui a été écrite dans l'autre sens et en italique. Et au milieu de ces pages-là, vous avez un carré qui reflète justement les 26 pages de ce qu'il n'y a pas dans ces couloirs et ces pièces. Et d'ailleurs, c'est que sur les rectos, parce que sur les versos, vous avez la même chose qui est écrit, mais en mode miroir. Enfin bref, c'est un vrai, de vrai, labyrinthe.
Oui, donc alors, chers auditeurs, sachez une chose, c'est qu'elle nous a parlé du bouquin avant l'émission, que nous, on a vu le bouquin, mais qu'en tout cas, personnellement, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Elle, elle a l'air de trouver ça super logique. Moi, elle m'a perdue.
Okay.
Ça a l'air fun, mais ça n'a pas l'air méga...
Moi, j'ai une question. C'est lisible ?
C'est incroyablement lisible.
Okay.
C'est ça qui est assez justement fou, c'est que malgré tout, ça demande au lecteur de réfléchir à « Ok, j'ai une note, je ne comprends pas, comment est-ce que ça se passe ?» Donc, ce n'est pas juste lire, c'est aussi chercher et trouver la logique de la note et du texte. Et ça permet d'être un peu acteur malgré tout. Et si on ne veut pas, ce n'est pas grave, parce que d'un côté, c'est que des notes. Donc, c'est juste pour des informations supplémentaires. Et puis, des fois, c'est 26 pages de noms, donc on s'en fout. Mais on est tout content d'avoir trouvé comment est-ce que ça marche.
Donc, en fait, le lecteur devient quelqu'un qui doit sortir d'un labyrinthe, en fait.
On peut dire ça, sans croiser le Minotaure.
Ça me plaît assez.
Alors non, moi, ça me fatigue.
Ouais, mais moi, je trouve assez cool le côté où t'es pas juste un lecteur passif qui bouffe du contenu. T'es là, t'as un objet, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir à comment sortir, comment prendre le truc, etc. Ça te force à être un peu plus actif. Alors, on est d'accord, tu vas pas lire ça entre deux trajets parce que t'as envie de passer le temps.
Clairement.
Ça te demande un peu d'investissement personnel, mais je trouve ça cool comme idée.
Alors, l'idée est cool, mais sérieux, si je veux faire des énigmes, je m'achète un bouquin avec des énigmes dedans.
mais ce que je veux dire,
c'est que c'est un bouquin que je laisse dans mes toilettes et que j'utilise des temps où j'ai rien d'autre à penser. Moi, j'avoue que je lis aussi pour me détendre, pour me changer les idées, pour découvrir d'autres univers, d'autres modes de réflexion, pour avoir quelque chose qui nous apporte une réflexion sur l'univers dans lequel on vit actuellement. Et j'avoue que ça me paraît tellement capillotracté que
et pourtant,
l'idée me paraît géniale. Ouais. Sincèrement, ça me paraît absolument génial, mais beaucoup trop génial pour moi, en fait.
Et pourtant, si on n'a pas envie, on n'est pas obligé. Dans le sens qu'on peut très bien passer les pages et lire l'histoire en tant que telle, parce qu'elle est toujours dans le bon sens. Enfin, de ce que j'ai lu pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas envie, c'est des notes. C'est pas très très important. Les notes qui sont importantes, elles sont dans le bon sens. Donc si on a envie, on joue le jeu. Si on n'a pas envie, on joue pas le jeu. Après, rien ne nous empêche de revenir
Ok, ouais. Donc tu peux revenir après à tes notes si tout d'un coup tu te dis ah ouais, non, mais en fait, ouais, ce serait sympa d'avoir un deuxième regard.
En général, les notes qui sont un peu capillotractées comme ça, c'est des notes qui sont pas très importantes, mm-hmm, voire pas importantes du tout.
Alors, tu nous rappelles juste le nom du bouquin, l'auteur et éventuellement l'éditeur, comme ça, si on a réussi à convaincre des auditeurs que c'était une bonne idée de lire un bouquin qui a de la physique, des maths et l'histoire d'une maison qui s'agrandit, et ben peut-être qu'ils pourront le retrouver.
Alors, La Maison des Feuilles de Marc Danielewski aux éditions de Noël et ailleurs.
Donc, à noter aussi que, de ma part, un magnifique bravo au graphiste qui a créé ce bouquin. Je pense qu'il y a dû y passer mais une année et demie, je pense, à peu près, au niveau du visuel. Parce que visuellement, capillotracté ou non, le bouquin est quand même très joli. I can hear myself from somewhere in bed.
I think she was dead. No much.
Parce que là, en l'occurrence, on était quand même bien profond dans les trucs bizarres et chelous et rigolos quand même en même temps. Pour un truc un peu plus traditionnel dans cette prise de notes, un bouquin qui s'appelle L'Homme dans le labyrinthe et qui est signé Robert Silverberg. L'Homme dans le labyrinthe, donc, c'est un roman de Planète Opéra. Le Planète Opéra, c'est de la science-fiction qui est une espèce de sous-genre du space opéra. Le space opéra étant donc ces espèces de grandes sagas type Star Wars ou Les Guerriers du Silence, ou ce genre de choses qui se passent dans un grand univers avec plein de planètes. Le Planète Opéra, c'est sur une planète. Là, en l'occurrence, on est bien. On est sur une planète qui s'appelle Lemnos. Limnos en grec, mais en l'occurrence Lemnos. Où il y a un type qui s'appelle Dick Muller qui habite dans un labyrinthe. Labyrinthe mortel, construit par, on ne sait pas qui, une espèce de peuplade extraterrestre il y a quelques millions d'années. Et qui habite là-dedans depuis 9 ans. Au début, on ne sait pas du tout pourquoi.
Mais c'est la planète qui a un labyrinthe ou c'est juste un endroit qui a un énorme labyrinthe?
Alors on sait pas trop, on a juste l'impression qu'effectivement il y a la planète puis que le labyrinthe prend beaucoup de place. Mais okay, on n'a pas vraiment de géographie précise. De toute façon on s'en fout, le gars ça fait 9 ans qu'il habite dans un labyrinthe quoi. Donc nous on part de ce focus là. Et puis tout d'un coup au bout de 9 ans il y a un astronef qui arrive sur la planète. De manière officielle ce sont des archéologues qui ont décidé de venir explorer la planète et explorer le labyrinthe parce que ce labyrinthe a été exploré plusieurs fois, c'est comme ça qu'on sait qu'il est mortel, c'est que les gens qui sont venus l'explorer sont morts. Mais bon, comme des vaisseaux se souviennent, ont des capsules mémorielles et des machins, on sait qu'ils sont morts. Et puis de manière officieuse en fait, à bord de ce vaisseau il y a deux hommes, Charles Boardman et Ned Rawlins, qui viennent parler à ce fameux Dick Muller. Richard Muller, vu que Dick est l'abréviation de Richard, bienvenue aux États-Unis où les abréviations n'ont aucun sens, qui viennent en fait parler à ce fameux Richard pour une certaine raison. Boardman est un diplomate, influent, manipulateur, il y a même la possibilité de transformer son physique en fonction de ce qu'on veut, donc lui il est un peu bedonnant, il a l'air un peu innocent, naïf, facile à manipuler, ce qui le rend d'autant plus manipulateur, et qui en fait a envoyé Richard Muller, c'est là qu'on apprend qu'en fait Richard Muller est un explorateur, sur une planète qui s'appelle Beta Hydri 4 pour rencontrer la toute première population extraterrestre que les humains ont rencontrée. Richard Muller, l'explorateur, a accepté la mission malgré les dangers et est revenu changé. Sauf que c'est pas forcément quelque chose de flagrant. Richard Muller a été changé par cette population de manière à diffuser une aura absolument nauséabonde qui insupporte les gens. Et on se rend qu'il les fait vomir, qu'il leur donne surtout pas envie d'entrer en contact avec lui. Et en général, à 2-3 mètres, ça commence à devenir assez insupportable. Et en fait, on apprend que cette aura nauséabonde, ce sont toutes les pensées qui en fait suintent de Richard Müller en direction des autres gens. Et les gens ne supportent pas en fait que cette façade qu'on a tous ait été supprimée. Müller, à force d'être rejeté par le monde entier, y compris son amoureuse et tous ses amis et ce genre de choses, devient complètement aigri et décide qu'en fait l'humanité, c'est tous des cons, il s'en va. Et comme il n'a pas le courage de se suicider, il se dit « je vais aller dans le seul endroit où je risque de mourir, ça sera parfait », le fameux labyrinthe mortel. Sauf que c'est quand même un explorateur avec un sens assez aigu de la survie et qui finit par arriver au centre du labyrinthe sans mourir. Et ça fait 9 ans qu'il habite là. Boardman, donc le fameux diplomate qui voulait manipuler Müller, a emmené avec lui Ned Rawlins, qui est un jeune homme, qui est plutôt joli, qui est plutôt ambitieux, mais surtout, qui est le fils d'un ami de Richard Müller. Ami qui est décédé, et donc Charles Boardman s'est dit « je vais envoyer Ned Rawlins, comme ça il va pouvoir faire un peu du chantage affectif à Müller, puis Müller il sera de nouveau d'accord de parler avec l'humanité. Puis comme ça je vais pouvoir de nouveau le manipuler, parce qu'en fait j'ai une nouvelle mission pour lui. » On a découvert une nouvelle population extraterrestre, sauf qu'en fait, ceux-là, c'est pas des gentils. Ils ont décidé qu'en fait, l'humanité, ils allaient en faire des esclaves. Et donc, nous, on aimerait bien leur faire comprendre que nous sommes une population pensante. Donc, en fait, on n'a pas envie de devenir des esclaves. On est un peu genre des égaux. Jusque-là, vous suivez ou pas ?
Ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent le gars qui suinte des pensées négatives et qui donne envie de vomir à tout le monde ?
Parce qu'en fait, l'avantage... c'est qu'il suinte des pensées. Donc, ouais. De manière complètement littérale, il va communiquer avec ses extraterrestres, quelle que soit la langue qu'il parle, le gars va suinter des pensées. Donc, c'est un être pensant, donc on n'est pas obligé de l'esclavagiser.
Je comprends mieux.
Tu vois ? Il y a une logique. Et puis, en plus, c'est à peu près le seul gars dans l'univers qui va accepter une mission suicide pareille. Il y a aussi ça. Alors ça, c'est pas dit texto, mais il y a aussi ça. C'est qu'en fait, c'est le seul gars qui va dire « Ok, ces gars, ils ont envie de faire de nous des esclaves, j'y vais. » Voilà.
Peut-être qu'il aime ça.
Donc le plan de Charles Boardman est 1. D'entrer dans le labyrinthe sans mourir et 2. De convaincre Müller de repartir en exploration. Voilà, ça c'est le pitch de base.
Great. On a quoi, 3 niveaux ?
Non, il n'y a pas 3 niveaux par contre. Si tu veux, une fois que tu as fait le pitch de base, tu as à peu près toute l'histoire. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'action. Par contre, il y a toutes les démarches psychologiques, toutes les réflexions, tout le développement en fait, de la psychologie des personnages. Donc, moi, j'ai bien aimé ce roman pour plusieurs choses. Un, parce qu'il faut au moins une fois dans sa vie avoir lu du Robert Silverberg. C'est quand même un grand écrivain américain de la science-fiction et de la fantasy. Et puis, ça vous donnera peut-être envie de lire une très jolie anthologie qu'il a mise en place, qui sont des nouvelles inédites de différents auteurs de fantasy, qui s'appelle Légende de la fantasy. Il y en a 2 tomes. Lui aussi écrit une nouvelle là-dedans, et c'est assez rigolo de voir qu'il a réussi à mettre ensemble plusieurs auteurs de plusieurs univers dans des nouvelles qu'ils ont écrites spécialement pour ça. Donc voilà, ça valait la peine de mentionner Robert Silverberg. Et puis, ce qui est intéressant en lisant ce bouquin aussi, c'est qu'on a les codes d'un genre, le planète opéra, avec une planète spéciale, parce que c'est quand même une planète labyrinthe, donc il y a des choses à dire aussi sur la planète. Et puis... c'est intéressant aussi parce que dans ces codes de genre, il y a aussi le côté un peu longuet, un peu contemplatif. On va quand même passablement observer la planète, passablement observer les personnages, qui est aussi en lien avec l'époque, parce que le bouquin est plutôt vieux, il date des années 60, 1968 pour être précise, aux États-Unis 1970, en France. Malheureusement, le côté longuet et contemplatif est aussi un peu le point négatif de ce bouquin. Déjà parce qu'en fait, le bouquin a été publié en 2 parties à la base, et que ça ne nous est pas expliqué. Donc tout d'un coup, au milieu du bouquin, il se met à réexpliquer les trucs. Puis j'étais là, il fait quoi ? Et en fait, j'ai compris en allant chercher sur Wikipédia est notre ami, qu'en fait, c'est paru dans la revue IF en avril et en mai 68. Et automatiquement, comme il y a un mois d'écart, il faut expliquer au lecteur ce qu'il a manqué. Du coup, le problème de rythme est aussi dû au statisme. Comme je disais, il y a beaucoup de psychologie. C'est très long, c'est très posé, c'est très descriptif. Ce qui est quand même bien, parce que je vous rappelle quand même qu'on parle d'une perspective d'enfermement. Le gars, il est quand même là depuis 9 ans. Mais bon, du coup, le côté un peu négatif, c'est qu'on va rester centré un peu sur le centre du labyrinthe, puis on va un peu moins découvrir les différentes parties du labyrinthe, parce qu'il y a plusieurs zones plus ou moins dangereuses. Et puis le côté très négatif aussi, c'est que le bouquin datant des années 60, il n'y a pas exactement la même place de la femme que dans d'autres romans, donc autant vous dire que la femme est plutôt stéréotypique. genre stéréotypique version plus 1000. Déjà, il n'y en a pas dans les expéditions. Hein. Les femmes ne sont pas des explorateurs. Et puis surtout, en fait, elles sont juste des groupies amoureuses des explorateurs. Et voilà, autant dire que...
C'est pas le cas maintenant, aujourd'hui.
Alors, c'est peut-être toujours le cas, mais toujours est-il que là, dans ce monde, il n'y a que ça. Mais bon, voilà, c'est pas la même époque, c'est pas le même genre d'écriture. Et puis moi, ce que j'aime quand même beaucoup, c'est que c'est quand même un plus pour la culture, c'est un plus pour l'histoire et pour quand même le rebondissement de l'histoire, parce qu'il y en a. Donc, je vous recommande quand même de lire dans cette prise de notes « L'homme dans le labyrinthe » de Robert Silverberg.
Και μας παίρνει αυγή όταν σβήνει βροχή. Στα μάτια σου παίζει ένα φως και ο αέρας περνάει, στα φιλιά σου γελάει. Στο παράθυρο γέρνω να δω το χρυσάφι του κόσμου, θα πω μα η καρδιά σου ανασένει κι όπως πριν μ' ανασταίνει. Σαν να βρίσκεσαι εδώ κι όμως είσαι μακριά. Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές. Στο λαβύρινθο έχω χαθεί, του Θησέα κρατάω την κλωστή. Μα τα χέρια πονάνε και τα μάτια ξεχνάνε. Στα νυχτά το όνειρό με κρατάει ένα βαγό. Στο παράθυρο γέρνω να δω το χρυσάφι του κόσμου, θα πω μα η καρδιά σου ανασένει κι όπως πριν μ' ανασταίνει.
Alors, une fois n'est pas coutume, en prise de notes, on vous propose un manga qui sort un petit peu de l'ordinaire, un manga survival, qui, en général, les mangas de survie, c'est du style Battle Royale, etc., c'est assez trash, c'est assez sanglant, c'est très très sombre, et là, avec ce manga nommé Dédal, on est sur quelque chose de très différent, sur quelque chose de très solaire, très positif, très fun, j'ai beaucoup ri en le lisant. Donc c'est un seinen, pour rappel, donc les mangas seinen sont en général destinés aux jeunes hommes, alors ça ne veut pas dire qu'il y a des filles à poil toutes les trois pages, mais c'est qu'en général, de base, c'est publié dans des revues destinées à un public masculin. Après, c'est tout à fait lisible pour les filles. Moi, franchement, j'ai trouvé ça vraiment chouette. L'auteur est Takamichi, et on est sur deux volumes uniquement.
Ça, c'est cool.
C'est un format très court qui est extrêmement appréciable parce que alors, moi, les mangas qui font 37 volumes, merci bien.
37 volumes et la saga n'est pas encore terminée. Voilà, c'est tout ça le problème,
c'est
ça, en général.
Donc, il y en a beaucoup comme ça.
Ouais, puis c'est mauvais pour le budget, c'est mauvais pour le scénario, c'est mauvais pour plein de choses. Donc, bref, là, on a deux volumes, c'est top. C'est sorti en 2015 au Japon et une année plus tard en français. Donc, on raconte l'histoire de Reika et de Yoko, qui sont deux étudiantes qui travaillent comme, à côté de leurs études comme débogueuses pour une société de jeux vidéo.
Et ça me plaît.
Ouais, je pense que ça va bien te plaire. Un jour, elle se réveille dans un endroit qui ressemble à chez elle. Puis en fait, c'est pas vraiment chez elle. Puis en fait, il y a personne dehors. Puis l'immeuble dans lequel elle se trouve sont devenus un monstrueux labyrinthe. Il y a des pièces partout, des nouvelles pièces. Puis derrière une porte où on devrait trouver, je sais pas moi, une salle de bain, en fait, on trouve un salon.
Ouais. Puis c'était le monstre qui était caché dans la salle
de
bain.
Non.
Tu m'as fait peur. Donc ça marche, cool.
Et voilà, elles essayent un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Elles vont voir un petit peu dehors et puis elles se retrouvent avec une forêt sans fin. Ça ressemble un petit peu à leur monde. Puis en même temps, elles sentent que c'est un peu bizarre au-delà du fait qu'il n'y a personne d'autre qu'elles. Elles partent en exploration. Reika mène un petit peu le truc parce qu'elle est hyper positive. Elle a envie d'explorer, elle, le monde des jeux vidéo. C'est son truc. Sa passion à elle, c'est de trouver les bugs et puis de les exploiter dans les jeux vidéo. Elle trouve ça génial. Pour elle, le bug, c'est quelque chose auquel le créateur de jeux vidéo n'a pas pensé et c'est un nouveau monde.
C'est une vraie gameuse.
C'est une vraie gameuse.
Clairement.
Et en fait, l'auteur, je le soupçonne d'être aussi un vrai gamer parce que son idée à lui, c'est de se dire que, en fait, notre réalité, elle a bugué. Notre réalité bug et il y a une espèce d'envers du décor qui se crée, qui est ce monde dans lequel Reika et Yoko se trouvent. Et voilà, c'est comme si, bah voilà, nous, on est là au studio et il y a un truc. On sait pas ce que c'est, on sort et en fait, on est dans un monde qui ressemble au nôtre, mais en fait, c'est notre monde qui a bugué.
Un peu à la Matrice.
Moi, je pensais plutôt à Stranger Things, la série télé.
Ah, on peut voir ça comme ça.
Avec l'histoire de l'acrobate et de la puce.
Mmh,
en fait, l'acrobate, il marche sur le fil et puis ouais. La puce, elle peut passer des deux côtés du fil. Ça me fait penser
mais
un peu
ça,
à ça avec l'envers.
Des mondes parallèles. Ouais, peut-être.
Alors là, on nous parle vraiment, si vous voulez, d'un côté pile et face et pile d'une pièce.
Ouais, donc
Stranger Things.
Voilà. Ouais. Moi, franchement, j'ai trouvé ça hyper cool avec le côté où on passe dans des pièces, etc. Ça m'a fait penser un peu à Portal aussi.
Ouais, aussi.
C'est un joli hommage. Chouette
jeu, d'ailleurs, pour ceux qui veulent jouer à deux.
Très voilà.
Même tout seul.
Et voilà un petit peu pour le pitch. L'élément un petit peu inquiétant dans tout ça, parce qu'il en faut un petit peu, c'est qu'elles vont trouver un message. Un message qui a manifestement été laissé par quelqu'un qui se trouve dans le même univers qu'elle. Qui demande à ce qu'elle le contacte. Et quand elles vont le contacter, elles vont découvrir qu'en fait, elles sont le seul espoir de l'humanité.
Tatatin.
Donc voilà. Moi, je vous laisse avec ça. Ça s'appelle Dédale. C'est joli, visuellement. C'est hyper sympa. C'est un bel hommage aux jeux vidéo. Les personnages sont cool. La traduction... Alors, je maîtrise pas le japonais, mais... La traduction fait plaisir, en fait. Ça sonne hyper naturel, les dialogues. Moi, je me suis éclatée à le lire. C'est court, ça vaut la peine. Donc, franchement, prenez le temps. Une petite soirée, ça suffit à lire les deux volumes. Je m'excuse d'avance pour la musique qui suivra. Hein, c'est mon vieux... c'est des réminiscences de ma période otaku. J'espère que vous me pardonnerez.
Yeah.
auditeurs, Monde Imaginaire referme ses portes et nous vous retrouverons le mois prochain avec nos jingles de ouf. Donc oui, je le répète, nous avons une compétition plus ou moins amicale avec l'émission Zirconium, émission de métal de la fabrique. Les gars, on va vous dégommer. Sachez que vous pourrez trouver ce podcast sur www.lafabrique.ch et sur Facebook. Et si par hasard vous avez décidé, chers auditeurs, de nommer un vainqueur du meilleur jingle de la fabrique entre Mondes Imaginaires et Zirconium, n'hésitez pas à le faire savoir sur le Facebook de la fabrique. Sur ce, et après cette voix, genre, je suis une hôtesse de l'air, bienvenue. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et vous dis au mois prochain. Ciao, ciao les filles.
Ciao, ciao.
Ciao. End of transmission.